Europe 1.
Tout de suite, notre invité culture sur Europe 1 ce dimanche matin, Cédric Gras, qui vient de publier chez Stock, Alpiniste de Staline. Bonjour.
Bonjour Bernard.
Cédric Gras. Ben écoutez, moi je ne les connaissais pas et pourtant je connais pas trop mal l'ex-URSS. Ce sont deux frères, Evgeny et Vitaly Abalakov, des Sibériens. C'était les plus grands alpinistes de leur temps, c'est-à-dire de 1930 à 1980 en gros. D'où sortent-ils ces deux gars? D'abord, ils sont nés en Sibérie, pas dans le Caucase ou du côté de l'Elbrouz. Pourquoi ils sont partis grimper les pics là?
Parce qu'ils sont nés à Krasnoïarsk, à côté de Krasnoïarsk, sur le fleuve Yénissé, en pleine Sibérie, ce coup-là. Mais là-bas, il y a des rochers, un peu comme à Fontainebleau, là, autour de Paris, sur lesquels se sont exercés beaucoup de grimpeurs parisiens. Et eux, ça a été leur école d'escalade, des gros blocs comme ça, perdus dans le Taïga. C'est ce qui leur a donné le goût de la varappe.
Accessoirement, ils résistaient au froid de manière admirable. Evgeny en particulier, par moins 40, le gars, il était tranquille.
Ah oui, pour le coup, ils étaient dans des plaines au niveau zéro, mais en Sibérie, ils avaient des hivers à moins 40, moins 50. Donc ça a été évidemment une école de la haute altitude sur le seuil de leur porte, en fait.
Alors, au début des années 30, ils commencent à conquérir tous les pics inconnus de l'URSS. Ils les nomment d'ailleurs. À chaque fois qu'ils montaient quelque part, ils mettaient la statue. Surtout le pic Staline et le pic Lénine. Il fallait amener une tête du héros.
Un buste de Lénine, un buste de Staline, un buste de Marx parfois. Enfin, c'était à peu près ça la trilogie. Hein.
Ouais.
Des divinités soviétiques qu'il fallait monter là-haut.
Même si on risquait sa peau à la montée parce que c'était trop lourd.
Il y a eu des cas où, parce que des alpinistes ne sont pas allés au sommet avec le buste et l'ont laissé en chemin et ils ont été déportés au goulag.
Alors, tout va bien au début des années 30 et puis arrive la Grande Terreur de 1937 et les alpinistes sont purgés comme les autres. Pas Evgeny. Pourquoi pas Evgeny?
Pas Evgeny, je pense qu'il était vraiment, lui, protégé par sa notoriété à l'époque des deux frères Abalakov. C'est celui-là le plus connu. Et c'est celui-là que nous, on a oublié, parce que finalement, comme Vitaly va lui survivre et inscrire encore, oui, à son crédit quelques beaux exploits, c'est celui qu'on a gardé en mémoire, enfin ceux qui s'en souviennent. Mais Evgeny, à l'époque, c'est lui l'étoile de l'alpinisme stalinien. Je pense qu'ils n'ont pas osé l'arrêter, parce que malgré tout, ça devait être un petit peu fort de café. Moi, je ne suis pas dans les secrets du NKVD, mais ce qu'il faut bien comprendre, on me demande toujours, mais pourquoi est-ce qu'on est allé arrêter des alpinistes? Pourquoi on les a déportés, fusillés, etc.? Comme vous l'avez dit, Bernard, parce que c'est comme les autres. Voilà. C'était ça la terreur. Ça devait concerner, terroriser tout le monde.
Alors, il faut quand même noter que le NKVD, donc la police politique, avait rebaptisé les clubs d'alpinisme l'organisation contre-révolutionnaire facho-terroriste des alpinistes et randonneurs. Une paranoïa gravissime.
C'était le nom du dossier des procès qui ont été faits aux alpinistes staliniens et que je suis allé rechercher à Moscou, aux archives fédérales d'État. On m'a ouvert la porte de manière assez sympathique. On m'a confié la lecture du procès de Vitaly Abalakov et c'est comme ça que j'ai pu reconstituer des pans entiers de sa vie qui étaient restés ignorés jusque-là.
Alors Vitaly, qui est le frère aîné, en 1934, il perd la moitié de ses doigts dans une terrible ascension du Tian Shan. Et Evgeny, donc lui, il n'a pas été purgé, il n'est pas allé au goulag, contrairement à son frère, il n'a pas été martyrisé, etc., etc. Il meurt asphyxié en 1947 dans son appartement à Moscou. Accident de poêle?
Accident de les colonnes à gaz à l'époque pour les colonnes d'eau chaude, c'est ce qu'a conclu l'enquête de police en tout cas. Moi je l'ai eu dans les mains, l'enquête de police de l'époque, dans d'autres archives à Moscou. J'ai rien trouvé qui puisse faire penser à autre chose, un assassinat. Alors je suis allé rencontrer son fils qui lui pense que c'est un crime.
Alors ce qui est extraordinaire, vous racontez plusieurs de ces expéditions dans les années 40, 50, etc. Et ce qui est extraordinaire de constater, c'est que ces gars-là, qui étaient des grands techniciens de l'alpinisme, ne sont jamais sortis du RSS. Ils n'avaient pas le droit.
Alors, pas les frères Abalakov, parce que le petit, il meurt avant la mort de Staline. Donc, lui, c'était réglé. On ne pouvait pas sortir de la géographie stalinienne. Et Vitaly, il a été libéré après les purges staliniennes, mais pas réhabilité. Alors, ça, c'est un détail administratif qui, pour nous, a l'air insignifiant, mais c'était très compliqué. On pouvait être déporté, ensuite, on était relégué, et après, il fallait être réhabilité. Le chemin du retour du goulag et des purges staliniennes était extrêmement long. Et Vitaly, il va arriver, c'est trop tard, il est trop vieux, et ça ne sert à rien pour lui maintenant d'aller dans l'Himalaya.
Ce qu'on découvre également dans ce livre Alpiniste de Staline, c'est que l'alpinisme soviétique est un monde à part. Ils ont des techniques tout à fait différentes. Ce sont des véritables épopées, ces trucs-là. C'est pas de la grimpe légère.
Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la politisation de la montagne.
La politisation
par l'URSS, qui n'a pas été vraiment le cas chez nous. Au contraire, ou alors chez nous, ça a été carrément anti-politique. C'était une manière presque libertaire d'aller exercer ça. Et puis, il y a la géographie. Nous, on connaît très mal la géographie du Pamir, du Kyrgyzstan. C'est extraordinairement vaste. Et à l'époque, c'est une carte presque blanche. Donc, ce sont des alpinistes explorateurs. Il y a des infrastructures à l'époque qui n'existent pas. Et donc, partir là-bas, c'est plusieurs mois de caravane, d'ascension, de reconnaissance, il faut lever la carte, etc. Et l'URSS leur assigne cette tâche. Elle n'autorise pas les alpinistes à pratiquer un sport qui soit un loisir, qui soit gratuit. Quoi. Il faut être utile, il faut construire le communisme.
Ils n'ont pas droit aux porteurs, contrairement aux capitalistes qui font grimper les pauvres porteurs népalais.
Il y a ça aussi, exactement. Ouais. Et donc toute cette idéologie dicte une organisation de l'alpinisme qui n'est pas celle de chez nous.
Ah, c'est absolument révélateur de tout un monde aujourd'hui disparu sans doute, et qui au final, dans son fonctionnement, fait que les Soviétiques, par exemple, ne parviennent en haut de l'Everest qu'en 1982.
C'est ça.
C'est-à-dire 25 ans après l'anglais Sir Edmund Hillary.
C'est 1953 la première l'Everest, c'est l'année de la mort de Staline, c'est pour ça.
Absolument, c'est l'année de la mort de Staline.
Donc ça fait 29 ans.
Oui, c'était 57.
Ça fait 29 ans, effectivement, et Vitaly Abalakov, il a déjà 80 années passées, je crois, mais il est là. C'est encore lui le patriarche qui organise cette expédition à l'Everest. Et c'est ça qui est extraordinaire dans son destin, c'est que lui, il naît dans l'Empire russe sous les tsars au début du XXe siècle dans une famille bourgeoise. Ça a été un énorme problème après.
Il n'était pas prolo à la base.
La révolution de 1917 pour les frères Abalakov a été compliquée. Moi, je commence mon livre là-dessus. Il meurt en 86. Bon, l'URSS s'effondre juste après, c'est juste avant en Tchernobyl. Enfin bref, il a traversé toute l'URSS. Mais c'est l'URSS vu par les neiges, quoi, vu par les hauts sommets.
Et on apprend aussi dans Alpiniste de Staline des choses terribles. Bon, mis à part les purges qui ont été un véritable carnage abominable, il y a eu des vraies tragédies de la montagne effroyables, notamment celle que vous racontez, Cédric Grand, en 1974. 8 alpinistes femmes mortes de froid.
C'est ça. Elles se sont retrouvées prises dans une tempête en faisant la traversée intégrale du pic Lénine. C'est 7100 mètres. Hein, on ne parle pas du Mont Blanc, là.
Kirghizistan.
Et au Mont Blanc, on y meurt de toute façon, là-bas, a fortiori. Et elles sont mortes de froid, les 8. Et c'était une expédition seulement composée de femmes. Elles voulaient prouver qu'elles pouvaient y arriver sans être encordées avec des hommes. Elles avaient réussi d'ailleurs l'opération sur plusieurs autres sommets avant, mais au pic Lénine, ça s'est très mal passé. Et c'était Vitaly Abalakov, il était déjà assez âgé, mais qui était chef du camp en bas. Et à l'époque, chez les Soviétiques, c'était pas comme chez nous, on partait pas faire ce qu'on voulait quand on voulait. Non, il fallait une autorisation, passer une visite médicale, prouver qu'on avait le niveau technique. Et Abalakov avait tout signé, tous les papiers, il avait validé le niveau de cette expédition féminine. Et ça a été un petit peu douloureux pour lui, parce que c'était la fin de sa carrière et ça s'est un peu mal terminé.
Quelle philosophie, s'il y en a une, à retirer, Cédric Gras, de cette aventure et de cette enquête sur les alpinistes de Staline?
Évidemment que moi, j'aurais aimé avoir la température idéologique de ces hommes-là. Qu'est-ce qu'ils pensaient vraiment du régime? Parce que, de toute façon, ils ne pouvaient pas jouer les rebelles. Donc, ils se soumettaient à un système pour mieux ensuite profiter de la montagne. Mais à quel point, lorsqu'ils étaient à 6000 mètres, 7000 mètres, ils ne faisaient pas entre quelques remarques contre-révolutionnaires, comme on disait à l'époque? Ben, ça, je ne peux pas le savoir, je ne peux que le supposer, mais... Mais je n'imagine pas qu'à 7000 mètres, on soit encore comme ça, là, à crier « Vive Staline ». Et pourtant, ça a eu lieu dans les années 30.
Ça a eu lieu.
Il fallait chanter l'international au sommet, mettre le petit buste, etc.
Et le drapeau, et aussi une radio, et une station météo.
Une station météo. Il fallait être utile à la société, à la construction du communisme. Ouais. Il fallait servir la science.
On ne grimpait pas pour rigoler.
On ne pouvait pas pratiquer la montagne comme on le fait aujourd'hui, comme des milliers de gens vont le pratiquer, là, parce que l'été arrive et c'est les vacances. Et moi-même, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire.
Eh bien écoutez, je vous le souhaite excellent cet été, Cédric Gras.
Merci.
Et merci d'avoir écrit ce formidable bouquin paru chez Stock qui s'appelle Alpiniste de Staline. Merci d'être venu en parler Europe 1. Bon dimanche.
Un plaisir.